apparemment que certains avaient mal dormi. Donc je vous garde à l'œil. Si je vois que ça commence à décliner dans la tension, on va se lever et faire des squats. D'accord ? Qui a vu le film Kingdom of Heaven ? Ça vous dit quelque chose ? Ah ouais, quelques-uns quand même, c'est pas tout récent. Vous rappelez de quoi ça parle ce film ? En gros, juste. Voilà, de reprendre. C'est un film sur les croisades en fait. Et vous savez, je crois que c'est dans ce film, peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Je crois que c'est bien dans ce film-là qu'il y a cette scène au début où les croisés, c'est vraiment au tout début du film, les croisés sont sur le point de partir, de quitter la France, sauf erreur, pour aller en Terre Sainte, pour combattre les musulmans et reconquérir Jérusalem. Mais juste avant qu'ils partent, ils se font baptiser. Et ils font quelque chose d'étrange. Juste avant d'entrer dans l'eau, ils tirent leur épée, ils la tiennent au-dessus d'eux, hors de l'eau. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ils font ça ? C'est pas pour éviter qu'elle rouille ? Ouais, ils pensent que ça symbolise la violence. Effectivement, ils veulent pas en fait que Jésus contrôle leur arme. Et ils allaient soi-disant au nom de Christ reprendre la ville sainte aux mains des musulmans, mais en fait, ils voulaient surtout aller massacrer et piller ces peuples, et ils voulaient surtout pas que Jésus contrôle leur arme. Je vous raconte ça parce que je me demande s'il n'en va pas de même aujourd'hui de nos porte-monnaies. Peut-être devrions-nous aussi le tenir, notre porte-monnaie, nos cartes bleues, au-dessus de nos têtes, hors de l'eau quand on se fait baptiser. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je vous provoque un tout petit peu. Mais simplement parce que je crois que des fois on veut bien de Jésus dans ma vie tant qu'il ne se mêle pas de mes affaires d'argent, de comment je dépense, de ce que j'achète, de ma façon de gérer mes biens, etc. Ça, c'est moi qui contrôle, pas Jésus. Et je crois que c'est une grosse erreur, en fait. J'espère vous montrer ce matin qu'il n'y a rien de plus merveilleux, merveilleux vraiment, que de laisser Jésus avoir le contrôle sur notre porte-monnaie, qu'il soit maître de ma vie jusque-là, jusque dans ma façon de gérer mes biens. On va se demander, du coup, comment vivre la générosité au quotidien. C'est le thème pour ce matin. Et pour répondre à cette question, on va lire Luc 19, versets 1 à 10. C'est l'histoire bien connue de la rencontre entre Jésus et Zachée. Donc, Luc 19, verset 1. Et je vais juste prier avant de lire le passage. Seigneur, nous te remercions pour ce temps encore ce matin où nous pouvons ouvrir ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu nous montres par ces quelques versets combien tu es un Dieu glorieux et généreux et que tu nous appelles à ta suite à faire preuve de générosité autour de nous. Amen. Luc 19, verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà, jusqu'ici. Et cette histoire de Zachée nous donne la réponse à trois très importantes questions. Pourquoi vivre généreusement ? Comment vivre généreusement ? Et qu'est-ce que vivre généreusement ? Okay ? Premièrement, pourquoi ? C'est-à-dire, quelle raison avons-nous de ne pas garder notre argent pour nous, mais de le donner, et de le donner généreusement ? On ne va pas se mentir, d'accord, ce matin, personne naturellement n'aime donner son argent. Là, je crois qu'on est d'accord. On a toujours l'impression d'y perdre, n'est-ce pas? Mais moi, j'aimerais vous montrer qu'on y gagne, en fait, à donner. Pourquoi? J'y viens, ok? Mais voilà d'abord Jésus, en route pour Jérusalem, qui décide de traverser la ville de Jéricho, où habite un certain Zachée. Que sait-on de lui? Il nous est dit, verset 2, qu'il était chef des péagers, ou des collecteurs d'impôts, maintenant. Aujourd'hui encore, ceux qui travaillent aux impôts, j'espère qu'il n'y a pas de vos parents qui travaillent aux impôts, mais généralement, ils ne crient pas sur les toits. Okay, mais il faut comprendre ce que ça signifiait à l'époque, c'était bien pire encore. Parce qu'en Israël, Israël était sous occupation romaine. Et Rome, vous le savez peut-être, imposait de lourdes taxes aux populations qu'elle avait conquises. Et pour collecter ces impôts, elle employait des habitants locaux, comme ici Zachée qui est un juif en fait. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer combien ces péagers devaient être détestés, haïs par tous, par leur propre camp déjà, mais aussi par l'occupant? Juste pour vous donner une idée, c'est un peu l'équivalent des collabos avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça en fait. C'était des traîtres à la nation, des lâches, des opportunistes. On n'aime pas trop les gens qui retournent leur veste en fonction de la direction du vent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les péagers étaient haïs, détestés par tous. Qu'est-ce qui peut bien amener, réfléchissez, qu'est-ce qui peut amener un homme à faire un tel travail? Comment un homme peut-il accepter de trahir son peuple ainsi, d'être détesté sans amis? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? On le voit dans le passage, c'est l'attrait de l'argent en fait. Regardez, il nous est dit que Zachée était riche. Et voilà pourquoi. Les collecteurs d'impôts avaient la réputation d'extorquer leurs compatriotes. Ils prenaient au peuple plus que ce qu'il devait réellement donner à Rome, et il s'en mettait plein les fouilles. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et Zachée devait être très riche, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un collecteur d'impôts ordinaire, un télonès en grec, mais c'est un archi-télonès, un chef des collecteurs d'impôts. Ce qui veut dire que tout l'argent collecté dans cette ville de Jéricho passait entre ses mains à lui avant de partir à Rome. Zachée devait être très, très riche. Seulement, il était sans doute aussi détesté qu'il était riche. Je vous donne juste un détail. Son nom, Zachée, est-ce que vous savez ce que son nom signifie? Un peu une question difficile. Zachaï, en araméen, signifie le juste. Quand il passait dans la rue et qu'on l'appelait, c'était « Hé, le juste, viens là !» Est-ce que vous vous rendez compte de l'affront que ça devait être pour tous ceux qui l'avaient injustement extorqué? C'est-à-dire, le juste, tu plaisantes, lui? C'est exactement l'inverse. Bref, Zachée devait être encore plus riche, mais encore plus détesté que tous les autres péagers de la ville. Et on a la preuve d'ailleurs, regardez, la foule ne le laisse même pas passer. C'est « dégage-toi, on ne veut pas ici ». Et il est obligé de grimper à l'arbre pour voir Jésus. Comment est-ce possible d'en arriver là? Comment expliquer qu'un homme accepte de tout perdre, sa réputation, ses amitiés, tout, juste par cupidité, pour avoir plus? Comment est-ce possible d'en arriver là? C'est possible parce que l'argent, nous dit la Bible, nous rend aveugles à son pouvoir et son attrait dans notre vie. Certains d'entre vous connaissent le nom de Timothy Keller, ça vous dit quelque chose? Il a écrit quelques livres sur la générosité et la justice, je vous encourage à les lire, ils sont vraiment intéressants. Et il dit quelque chose de fascinant. Il dit, en tant que pasteur, il a été pasteur pendant 40 ou 50 ans dans plusieurs églises, il dit, les gens m'ont déjà avoué avoir commis presque tous les péchés. Presque. J'ai eu des gens qui sont venus vers moi et me dire, pasteur, je suis tombé dans l'adultère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pasteur, j'ai un problème avec la colère, je suis colérique, je fais du mal autour de moi, est-ce que tu peux m'aider? Presque tous les péchés, je les ai vus, il dit. Mais, il dit, j'arrive pas à me souvenir de quelqu'un qui soit venu me dire, pasteur, j'ai un problème avec l'argent. J'en ai besoin de toujours plus, je me fais toujours du souci pour mon argent, est-ce que tu peux m'aider? Je suis cupide et ça me fait du mal. Il dit, ça, j'ai jamais eu. Pourquoi? Voilà la réponse qu'il donne, je cite, « Parce que le Dieu argent aveugle nos cœurs. » Ça fait partie de son mode opératoire. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit « L'argent, en fait, c'est une idole. Et lorsqu'il saisit votre cœur, l'argent vous rend aveugle à ce qui vous arrive. Et petit à petit, imperceptiblement, il prend contrôle de votre vie. Et lentement, il vous détruit. » Pour prendre une image, c'est, je ne sais pas si ça vous aidera à voir ce que je veux dire, mais c'est un peu comme boire de l'eau de mer. Si vous avez soif et que vous voyez de l'eau de mer, vous pensez, oh, ça va le faire, j'ai soif. ah, j'ai besoin de boire, ça va le faire, ça va être bon pour moi. Seulement, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne voulez pas voir, c'est que l'eau de mer a une forte concentration de sel. Et donc, plus vous en buvez, qu'est-ce qui se passe? Plus vous avez soif, exactement. Plus vous en buvez, plus vite vous vous déshydratez. Et donc, et si vous continuez à boire comme ça, vous aurez des maux de tête, vous aurez la bouche sèche, votre tension artérielle va baisser, votre rythme cardiaque va s'accélérer, etc. Vous allez partir dans le délire, vous allez perdre connaissance, et puis vous allez mourir. C'est dingue. Vous voyez de l'eau et vous dites, c'est ça que j'ai besoin, j'en ai besoin de ça, c'est ce qu'il me faut. Mais à votre insu, en buvant cette eau, vous êtes en train de vous détruire. Et c'est exactement ça avec le danger avec l'argent. Et voilà pourquoi vivre généreusement, pour répondre à ma question de départ. Pourquoi est-ce qu'on y gagne à lâcher, d'accord, à donner même généreusement? C'est, écoutez bien, à cause de l'attrait trompeur de l'argent. Prenons juste deux exemples, d'accord, pour que ça devienne concret dans votre vie. Il y a deux mensonges, il y a deux gros mensonges que l'argent veut nous faire croire. Lesquels? Le premier mensonge, c'est qu'avec beaucoup d'argent, vous seriez en sécurité. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être rongé, c'est un peu ce que Magali disait, est-ce qu'il vous arrive pas d'être rongé de soucis en pensant à la prochaine facture, pour ceux qui payent déjà des factures? Ou peut-être que vous vous dites, mais comment est-ce que je vais faire si je ne trouve pas de job cette année? Comment est-ce que je vais payer mes études ou payer mon loyer? Ou si je perds mon travail, pour ceux qui en ont déjà, comment est-ce que je vais pouvoir rembourser mon crédit? Ou peut-être pour les plus jeunes, vous pensez au permis de conduire et vous vous dites, oh, c'est tellement cher, je ne sais pas comment je vais le payer. Pourtant, j'en ai besoin pour me déplacer. Et il faut toujours plus, toujours économiser plus, et encore. Mais est-ce que vous voyez où est le mensonge, ici? Ce qu'il y a de trompeur, c'est que vous ne pouvez jamais être sûr d'avoir assez. Et s'il y avait un imprévu? Et si on ne m'attribuait pas ma bourse, justement, d'école, l'année prochaine? Comment je vais faire pour payer? Et si je ratais mon permis et qu'il me fallait tout recommencer? Et si je ne trouvais pas de job cet été, etc., etc. Et petit à petit, vous êtes rongé par les soucis. Parce que chaque dépense est en trop. Vous avez toujours peur de manquer. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Un peu. Ça peut vous détruire, ça. Mais quel est le deuxième mensonge? Le deuxième mensonge, c'est qu'avec beaucoup d'argent, vous seriez bien aimé, apprécié, populaire. Est-ce qu'il vous arrive jamais d'être rongé d'envie en voyant ce que certains de vos amis peuvent se payer? Et vous pensez, mais j'ai l'air de quoi, moi, à côté? Avec mes habits ringards, mon vieux téléphone, ou avec ma vieille voiture et mon appartement minable, j'ai l'air de quoi? Et si seulement je pouvais m'acheter? Et si j'avais l'argent pour m'acheter ça? Ou peut-être vous pensez à la fête ou au week-end de ski que des copains organisent et vous pensez, si je ne peux pas y participer, si je ne peux pas me le payer, je vais passer pour quoi? Je serai le seul du groupe à pas y être. Et il faut toujours plus, toujours dépenser plus, encore et encore, pour vous sentir beau et intéressant aux yeux des autres. Mais est-ce que vous voyez où est le mensonge ici? Ce qu'il y a de trompeur, c'est que vous ne serez jamais assez beau et assez intéressant aux yeux de quelqu'un. Vous comprenez ça? Si vous passez votre temps à vous comparer, il y a toujours au moins une personne pour qui vous ne serez pas assez bien. Et petit à petit, vous serez rongé d'envie. Parce que vous ne serez jamais satisfait de ce que vous avez. Il faudra toujours plus, un petit peu plus. Bref, dans les mots même de la Bible, écoutez, l'argent est une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. C'est-à-dire, il vous trompe. Il ne donne pas ce qu'il promet. Il promet d'étancher votre soif de reconnaissance, de sécurité, mais il vous laisse assoiffé. Il promet satisfaction, mais il vous laisse vide, avec un goût amer dans la bouche. Comme l'eau salée. Voilà pourquoi vivre généreusement. C'est à cause de l'attrait trompeur de l'argent. Le meilleur moyen de s'en garder, le meilleur moyen de s'en protéger, c'est encore de le donner. Et de le donner généreusement. Ça va? Vous me suivez jusque-là? Mais comment alors? Comment le faire? Parce que c'est facile de dire ça, il faut le donner, mais comment? Deuxièmement, comment vivre généreusement? Parce que si tu te dis, ah, c'est vrai, il faut que je sois plus généreux, allez, je vais donner de mon argent, maintenant c'est décidé. Tu vas peut-être donner ton argent, mais tu vas le faire comment? En tirant la gueule, à contre-cœur. Pour que tu donnes, et que tu donnes avec joie et généreusement, un changement plus radical doit avoir lieu dans ta vie. comme ça a été le cas pour Zachée. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Comment Zachée, de l'homme cupide qu'il était, est-il devenu généreux? Ça s'est fait en deux temps, en fait. En premier, il a entendu ce qu'a dit Jésus, et ensuite, il a vu ce qu'a fait Jésus. D'abord, que lui a dit Jésus? Ou peut-être plutôt, qu'est-ce que Jésus ne lui a pas dit? Regardez le verset 5. Voilà Jésus qui arrive au pied de l'arbre où se trouve Zachée, il lève les yeux, et il lui dit, verset 5, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Je viens chez toi, Zachée. Maintenant, il faut comprendre qu'à cette époque, l'hospitalité, c'était un gros truc. Okay, si vous vous invitiez chez quelqu'un, vous vous invitiez en fait dans sa vie. Si vous acceptiez l'hospitalité de quelqu'un, vous alliez prendre un repas, c'est que vous étiez de vrais, vrais amis. D'accord? Et c'est pourquoi quand Jésus dit à Zachée, « Je viens chez toi », comment est-ce que la foule réagit? Ils ont flippé, ils se sont dit, mais est-ce qu'il sait à qui il est en train de parler? C'est l'archi-péager, c'est l'archi-pêcheur. Comment est-ce qu'il peut aller chez lui? Qu'est-ce qu'ils attendaient que Jésus dise? Sans doute, pensaient-ils, que Jésus dirait, Zachée, si tu mets de l'ordre dans ta vie, je serai heureux de venir chez toi. Mets de l'ordre dans ta vie et je viendrai dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie et je serai ton ami. Seulement, si Jésus avait dit ça, comment Zachée aurait-il réagi? Il s'en serait allé tout triste. Pourquoi? Parce qu'il aimait ses richesses. Il aurait été triste de les abandonner. Mais c'est pas comme ça qu'il réagit. Regardez le verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut, comment? Avec joie. Pourquoi? Mais parce que justement, Jésus ne lui a pas dit « Zachée, mets de l'ordre, d'abord de l'ordre dans ta vie, ensuite je viendrai chez toi. » Non, c'est « Je viens d'abord chez toi, parce que je veux être ton ami. » Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu ne m'aime pas à condition d'être bon et généreux. Dieu m'aime sans condition, gratuitement. Et c'est ça qui me donne envie d'être généreux. Ça, c'est la première étape dans la vie de Zachée. Mais il y en a une deuxième. Il a entendu ce qu'a dit Jésus, et puis il a vu ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 7, regardez. Il nous a dit qu'à cette vue, c'est en voyant Jésus aller avec Zachée, tous murmuraient et disaient, « Ce Jésus est allé se loger chez un homme pécheur. » Qu'a fait Jésus? Il a souffert le mépris de la foule. Voilà ce que ça lui en a coûté pour dire à Zachée, « Je vais être ton ami, je vais venir dans ta vie. » Et quand Zachée a vu Jésus l'aimer au prix de sa réputation, il était bouleversé. Et ça a transformé sa vie. Et voyez-vous, si Zachée a été transformé en voyant ça, combien plus devrions-nous être transformés? Parce que ça, c'est que le début. Pour que Jésus puisse te dire à toi, « Je veux être ton ami, je veux venir dans ta vie. » Jésus n'a pas juste souffert le mépris de la foule, il a souffert la mort au nom de la foule. Jésus ne nous a pas aimés, vous et moi, au prix de sa réputation seulement, mais au prix de sa vie. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit « Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, Jésus, il a abandonné tous ses trésors célestes, pour que tu deviennes son trésor. S'il restait riche, nous, on mourrait pauvres. Mais il a accepté de tout perdre, pour qu'on puisse, nous, tout gagner. Le salut, la vie éternelle, l'amour de Dieu. Voilà ce qui peut te transformer vraiment en quelqu'un de généreux. C'est quand tu vois Jésus mourir sur la croix, pour que toi, personnellement, tu deviennes son trésor, alors là, il devient ton trésor. Et l'argent dans tout ça, et ben, tout d'un coup, l'argent, ben, il reprend juste sa place, sa juste place d'argent, c'est tout. J'en ai plus, c'est plus mon trésor. J'en ai plus besoin pour me sentir aimé ou en sécurité. Je vais en venir au dernier point, dans une seconde, qui sera beaucoup plus pratique. On va réfléchir à qu'est-ce que vivre généreusement, mais je voulais juste vous montrer un truc qui, moi, a fait beaucoup de bien en Luc chapitre 12, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on le lise avant. Vous n'avez pas besoin de tourner, je vous rappelle ces versets. Jésus dit à la fin du passage, vous avez peut-être remarqué, il dit « Vendez ce que vous possédez et donnez l'argent aux pauvres ». En gros, il dit « Prenez ce que vous avez, prenez votre argent et donnez-le généreusement ». Maintenant, j'aimerais que vous écoutiez ce que Jésus dit juste avant de dire ça. Il dit, c'est le verset qui précède, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quel verset! Est-ce que vous réalisez comme ce verset il est chargé? En un verset, un seul, vous avez trois images de Dieu. Jésus vient de nous dire que Dieu est un berger qui nous protège, on est son petit troupeau. Dieu est un Père qui nous aime, et Dieu est un roi qui nous donne son royaume. Et Jésus dit, compte tenu de ça, compte tenu du fait que par ma mort sur la croix, le Dieu infini de l'univers est maintenant ton berger, il connaît tous tes besoins, et rien ne peut te manquer. Il est ton Père qui t'aime, qui te trouve beau et belle tel que tu es. Et il est ton roi qui te promet un royaume éternel et glorieux. Compte tenu de ça, prends ton argent et donne-le aux autres. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, vous avez déjà tout. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent? Vous n'avez pas besoin de ça. Donnez-le. Voilà comment vivre généreusement. C'est en ayant en fait ton identité et ta sécurité tellement enracinée en Christ que l'argent, eh ben c'est de l'argent, c'est tout. Ça peut être utile pour servir les autres, pour toutes sortes de choses, mais c'est tout. Puisque j'ai tout gratuitement en Jésus, j'ai bien plus d'argent qu'il m'en faut. Et je peux alors le donner, et le donner généreusement. Vous êtes toujours là ?
Oui.
Ok. Dernier point, d'accord ? Qu'est-ce que vivre généreusement ? Concrètement, à quoi ça ressemble de vivre la générosité au quotidien ? On va essayer de devenir un peu plus pratique maintenant. Et bien, c'est ce qu'on voit au verset 8, regardez. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors arrêtons-nous là un instant. Plusieurs commentateurs m'ont fait remarquer deux choses que je n'avais pas du tout remarquées, et je suis sûr que vous ne les avez pas remarquées non plus. Okay? D'abord, est-ce que vous avez remarqué que Zachée parle au présent ? Vous avez remarqué ? Relisez, ou non, plutôt imaginez la scène. Zachée est descendu de son arbre, il est là face à Jésus, dans la rue, il y a la foule autour, il vient de descendre de son arbre, okay, il n'a pas sa fortune sur lui, Zachée, il a peut-être quelques pièces au fond de ses poches. Et pourtant, il dit, relisez, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, présent. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, présent. » C'est bizarre, non? Il parle comme s'il était déjà en train de le faire, alors que ce n'est clairement pas le cas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que les commentateurs expliquent, c'est qu'en araméen, ce qui est la langue de Zachée, quand vous voulez exprimer votre résolution ferme de faire quelque chose dans l'avenir proche, vous parlez comme si vous étiez déjà en train de le faire. Vous parlez au présent. En fait, ce que Zachée est en train de dire à Jésus, c'est « Je suis si déterminé à verser sans attendre la moitié de mes biens aux pauvres que dans mon cœur, c'est comme si j'étais déjà en train de le faire. Je ne veux pas remettre à plus tard. » Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? J'y viens. La majorité d'entre vous, sans doute, d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir, qui parmi vous a déjà un emploi fixe avec un salaire régulier? Ouais, ça se compte sur les doigts d'une ou deux mains. Pas beaucoup, c'est ce que je pensais. Du coup, ça, c'est justement ce que je voulais aborder. Est-ce que, pour la majorité d'entre vous, du coup, qui n'avaient pas un salaire fixe, est-ce que la tentation n'est pas là de se dire « je serai généreux plus tard ». Quand je gagnerai un salaire, alors là, je donnerai au Seigneur, ou là, je donnerai à ceux qui sont dans le besoin. Mais à quoi ça sert que je me préoccupe de ça maintenant, avec le peu que j'ai de toute façon? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que ça vous arrive de penser comme ça? Je sais que je pensais comme ça quand j'étais étudiant. C'est normal. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas le faire, à ne pas remettre à plus tard. Pourquoi? D'une part, parce que si vous remettez à plus tard, le cœur qui vous pousse à donner aujourd'hui pourrait vous convaincre de ne pas le faire demain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout d'un coup, vous allez recevoir un salaire. Pour ceux qui ont commencé à gagner leur vie, votre premier salaire, c'est pouf, wow, vous avez l'impression d'être super riche, quoi. Sauf que tout d'un coup, vous avez aussi plein de choses à payer et puis plein d'idées de comment l'utiliser, cet argent. Et ça vous file entre les doigts. Or, si vous avez pris l'habitude de donner dès maintenant, même en ayant peu, ça vous semblera normal de donner quand vous aurez plus. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la générosité, ça s'apprend. C'est comme tout. Là, vous pouvez commencer, c'est comme avec les petits trous, vous savez, sur le vélo, quand vous n'avez pas grand-chose. Mais d'autre part, l'autre raison de ne pas remettre à plus tard, c'est qu'il n'y a pas de petits dons aux yeux de Dieu. Ce que je pense personnellement, on va peut-être un peu ouvrir la discussion, peut-être si vous avez des questions, des choses, on pourra discuter, mais ce que je pense personnellement, c'est qu'une des raisons qui freine notre générosité, c'est pas qu'on n'a pas pour donner, mais c'est qu'on a peu. Et on se dit, mais à quoi bon donner ces 10 ou 15 euros que je peux économiser chaque mois ? Qu'est-ce que ça représente dans le budget de l'Église, par exemple ? C'est rien, c'est une goutte d'eau. Alors que moi, ces 10 ou 15 euros, j'en ai vraiment besoin. Pour mon abonnement Netflix, on en parlait hier soir avec mon groupe. Okay. Est-ce que c'est une bonne façon de raisonner ? Non. J'aimerais juste vous rappeler cette histoire. C'est en fait deux chapitres plus loin en Luc, dans l'évangile de Luc, Luc 21. Voilà Jésus qui est au temple. Vous vous rappelez de cette histoire ? Il voit le cortège des riches qui arrivent avec leurs sacs d'or et d'argent pour donner au temple. Et tout à coup, il y a une pauvre veuve qui arrive et qui pose 2 pièces, 2 centimes. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit à ce moment-là ? Je vais vous dire. Il dit, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Elle a mis 2 centimes. Car, dit Jésus, c'est de leur superflu que tout cela en donnait, mais elle a donné de son nécessaire. Comment se fait-il qu'elle a donné plus que tous les autres, avec ses 2 centimes face à des sacs d'or et d'argent ? Mais parce qu'aux yeux de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la valeur de votre don, c'est la disposition de votre cœur. Si vous donnez avec joie, que vous êtes prêt même à sacrifier le peu que vous avez, Dieu le voit et il s'en réjouit. C'est même beaucoup mieux à ses yeux que quelqu'un qui vient avec ses sacs d'argent et qui le fait à contre-cœur ou pour plaire aux hommes. Bien, ça c'est la première chose à dire. Qu'est-ce que vivre généreusement ? C'est dire « je donne » au présent. Ne pas remettre à plus tard. Mais je vous ai dit qu'il y avait une deuxième chose ici que les commentateurs soulignent et je suis presque sûr que comme moi, vous ne l'avez pas remarqué. Qu'est-ce que c'est ? C'est au verset 8 encore. « Combien Zachée promet-il de donner à ceux qu'il a volés ?» Le quadruple, exactement. Et nous, aujourd'hui, on lit ça et on se dit « bon, c'est bien, il est réglo, quoi. C'est pas mal. » Mais pour un juif de l'époque, c'était complètement sidérant d'entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi, en fait, dans l'Ancien Testament qui s'applique exactement à genre situation. La loi, elle dit qu'en cas de vol, comme ici, comme Zachée, vous devez rendre ce que vous avez volé, plus le 20%. Donc si vous avez volé 500 pièces d'or, vous rendez combien ? Moi, j'ai calculé avant, donc c'est 600, exactement. Voilà, 500 plus 1%, 600 pièces. Exactement. Mais ce n'est pas ce que fait Zachée. Combien est-ce qu'il rend ? Le quadruple. Est-ce que vous savez ce que ça fait comme pourcentage ? 400. Facile. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il devait rendre. Pourquoi est-ce que je souligne ce détail ? Est-ce que c'est pour dire qu'on doit faire exactement comme lui, exactement, qu'on doit donner la moitié de notre fortune aux pauvres ? Non, évidemment. Mais voilà ce que ça veut dire. Si Jésus lui avait dit, Zachée, si tu fais de l'or dans ta vie, alors je viendrai chez toi, quelle est la question que Zachée lui aurait posée ? Il aurait dit, d'accord Seigneur, combien dois-je donner ? Combien est-ce que je dois donner pour que tu viennes dans ma vie ? Mais quand Zachée a vu la grâce généreuse de Jésus qui lui dit, je viens chez toi Zachée, ça a transformé sa question en, combien puis-je donner ? Pas combien dois-je donner ? Est-ce que je dois donner 10 ou 20% ? Est-ce que je ne peux pas donner moins ? Non, Seigneur, combien puis-je donner ? Et ce qui va se passer si, en réponse à la grâce de Dieu, vous cessez de vous demander combien vous devez donner pour demander combien vous pouvez donner, vous verrez que la générosité ne se limite pas à l'argent. Okay, on a parlé beaucoup d'argent aujourd'hui, ce matin, hier aussi. Mais on peut être généreux avec tout, vraiment. On peut être généreux avec son temps, on peut être généreux avec ses amis, on peut être généreux avec sa maison, on peut être généreux avec ses talents, avec tout. Et juste pour terminer, avant qu'on ouvre un peu la discussion, peut-être si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai dites, si vous voulez réagir, ce sera le moment, mais j'aimerais juste vous donner quelques exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler d'être généreux avec tout. Okay ? Vous pouvez être généreux avec votre temps, par exemple. Je suis sûr, prenez le temps de réfléchir aux gens de votre église, je suis sûr qu'il y a des gens de votre église qui sont dans le besoin, pas financièrement, ils n'ont pas besoin de votre argent, ils ont juste besoin que vous leur accordiez un peu de temps. Et je vais vous donner un exemple tout de suite quel type de personne ça pourrait être. Mais je le dis parce que hier dans le groupe, c'est peut-être votre cas dans votre groupe aussi, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont des besoins autour de nous? Et c'était le silence. Et je comprends, parce que moi aussi, quand je regarde autour de moi, des gens à qui il manque de l'argent, il n'y en a pas beaucoup en fait. Mais il y a des gens qui ont d'autres besoins. Par exemple, que vous leur accordiez un peu de temps. Par exemple, une mère qui élève seule ses enfants et qui travaille à côté, c'est sûr qu'elle aura besoin de quelqu'un pour garder ses enfants, mais elle n'aura peut-être pas les moyens de se payer une babysitter. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre une de vos soirées pour aller garder ses enfants gratuitement? C'est juste une idée, un exemple. Autre exemple, vous pouvez être généreux en faisant preuve d'hospitalité. Je suis sûr qu'il y a des personnes dans votre église qui sont seules, qui n'ont pas de famille, peu d'amis, ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver à Grenoble, ça peut être une personne âgée. Est-ce que vous ne pourriez pas inviter cette personne à prendre un repas chez vous? Ça, vous devrez sacrifier un peu de votre argent pour acheter la nourriture, un peu de temps pour préparer le repas. Mais c'est ça aussi la générosité. Alors je sais, vous n'avez peut-être pas tous une maison, ni même un appartement pour accueillir quelqu'un. Vous êtes peut-être en coloc, voire même encore chez vos parents. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous empêche de payer à cette personne un verre et de passer un peu de temps avec elle en ville? Ou de sortir avec des amis et d'inviter cette personne à sortir avec vous? Et d'être généreux avec vos amis, en fait, de partager vos amis. Voilà ce que c'est aussi que de vivre généreusement. C'est s'intéresser aux autres, c'est donner de son temps, c'est servir dans l'église, etc., etc. Il y a mille et une manières de répondre à la grâce prodigieuse de Dieu envers nous. Alors que Dieu nous aide, vous aide chacun à vivre la générosité au quotidien. C'est ma prière. Je sais pas si on veut ouvrir un moment maintenant pour... Je sais pas ce qui était prévu, si c'est un temps de questions maintenant, c'est ça? Ouais.
Ouais.
Là, tu viens, je pense, ça, d'accord. Je sais pas s'il y a des choses que j'ai dit hier soir ou ce matin qui n'étaient pas claires, sans doute. Des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ou des remarques, des choses que vous voulez partager un peu sur ces sujets, soit des luttes que vous avez ou des questions que vous posez, Charlotte?
Moi j'ai juste une question, c'est pas forcément ciblé sur ce qui a été dit, mais en fait j'ai pas du tout la même traduction de la Bible.
Ouais.
Et par exemple, bah, du coup là, moi je suis une série de futur, quoi.
Ouais.
Je vais lui rendre, je vais. Du coup, je voulais savoir s'il y a des traductions qui sont meilleures. Hein.
Je vais dire que la meilleure c'est celle que j'ai, mais c'est. Non, mais c'est donc. En fait, c'est pas une question facile parce qu'il y en a aucune qui est parfaite, mais moi j'utilise la Colombe. C'est quelque chose de la version à la Colombe. Elle est un petit peu vieille parfois par rapport à des qui sont plus récentes, mais l'intérêt c'est qu'elle est un petit peu plus fidèle. Donc, typiquement, là c'est vraiment au présent par exemple, c'est pas du futur. C'est. Voilà, c'est.
Vous me demandez s'il fallait accorder de l'importance du coup à chaque mot,
étant donné
que
c'est l'intérêt de. Comment dire Quand tu lis dans ta version, en particulier si c'est une version un peu plus dynamique, plus en français courant par exemple, comme ça, elles sont bonnes, c'est des traductions parce que c'est facile à lire, mais souvent ils vont un petit peu adapter le texte pour que ce soit plus facile à lire justement. Donc si c'est une version comme ça que tu lis, je dirais, ne mets pas trop de poids sur des détails parce que tu pourrais passer à côté. Mais si tu en as une qui est plus proche ou si tu peux aller voir dans l'original, ben tu peux mettre plus de poids sur les détails. Jean.
Ouais, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ne pas tomber dans un certain activisme en termes de générosité, tu vois, de tomber dans une culpabilité qui nous dirait ah, tu ne nous donnes jamais assez de ton temps. Si par exemple on a du temps libre devant nous, enfin, ce qui serait facile de culpabiliser, de dire ah, c'est vrai que je donne plus de mon temps, plus de ci, plus de ça. Tu aurais des conseils à nous donner?
Je pense que la seule chose que je dirais, c'est en fait c'est un peu lié à ce que je disais à la fin, c'est que si on voit la générosité comme une activité qu'on fait, on risque de tomber dans l'activisme. Si on voit la générosité comme ma vie, en fait, c'est ça la vie chrétienne. C'est une vie généreuse, puis ça touche tout plein de trucs. Je pense qu'on évite de tomber là-dedans, parce qu'on est plutôt dans cette optique, justement, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est plus, t'es ouvert aux opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Je pense que c'est plutôt ça. Si vraiment t'as cette idée, ah, il faut que je sois généreux, donc c'est un peu une activité, donc... je vais tout le temps en train de culpabiliser quand je ne suis pas généreux avec mon temps ou que je ne donne pas assez, etc. Et je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'on voit quand c'est l'évangile qui nous motive. On n'a pas besoin de l'être, en fait, généreux. Parce qu'on est aimé, on a on ne mérite rien de la part de Dieu, il nous a tout donné généreusement. C'est vraiment juste une attitude générale de ma vie où j'ai juste envie de lui rendre tout ça avec ma vie. Et en fait, je pense que ça va naturellement remplir toute ma vie. Et puis tu vas faire des choses, après, tu vas même plus avoir l'impression que ça t'en coûte. Je sais pas, tu vas te mettre à inviter des gens avec que tu n'aurais peut-être pas à la base envie d'inviter, mais ça te semblait naturel au bout d'un moment, ou des choses comme ça, je pense. Mais c'est une bonne question. C'est vrai que le danger, c'est un peu de culpabiliser sur ces questions-là et se dire, bah, il faut que je donne plus, il faut que je fasse plus. Et c'est pas le but. Quoi. Ouais, Charlotte, ou quoi ? C'est vrai que la question, on l'a toujours dans plein de situations. Imaginez vous donner un peu d'argent à quelqu'un qui est dans la rue, vous ne savez pas ce qu'il va en faire. C'est souvent un truc où on se dit, ah, si je lui donne, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va vraiment aller s'acheter à manger? Est-ce qu'il ne va pas faire autre chose avec? Ou on donne l'argent à quelqu'un parce qu'il me dit, je suis vraiment dans le besoin, puis on réalise qu'en fait, après, il n'était pas tellement dans le besoin de ça ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'à force de voir ça, des fois, on peut être un peu dans la retenue, se dire, ah, est-ce qu'il faut que je donne à la personne? Et puis on veut être à 100% sûr qu'il va faire un bon usage de ce qu'on lui donne. Je pense qu'il peut nous aider. Je dirais deux choses. Je pense qu'au niveau individuel, on doit se rappeler l'évangile justement, et se dire que Dieu, il nous a donné sa grâce en sachant qu'on allait la refuser, ou en sachant qu'on allait continuer à pécher. On n'a pas fait un bon usage, nous. Et je pense que ça doit nous aider à avoir un cœur un peu plus grand pour les gens, être moins dans le genre, ah, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Maintenant, ayant dit ça, je pense que la Bible nous dit aussi qu'il y a des gens qui peuvent abuser, et que par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans Intimité, Paul, il organise le service pour les veuves qui sont pauvres dans l'église, et il dit pour qu'elles reçoivent ça, il faut qu'elles remplissent un certain nombre de critères, en fait. Il faut qu'elles soient connues pour avoir fait des bonnes œuvres, il faut que, etc. Donc il donne pas juste comme ça de l'argent à n'importe qui, etc. Ou il y a un passage aussi, c'est un Thessaloniciens ou deux Thessaloniciens, je crois, il dit, ceux qui veulent pas travailler, arrêtez de leur donner à manger, donnez-leur pas à manger. Donc il y a aussi un côté où il faut garder ça, faut tenir compte de ça, de l'attitude des gens. Et si on voit vraiment quelqu'un a aucune envie, par exemple, de travailler, de se mettre, de régler sa vie, de mettre sa vie en ordre au bout d'un moment, il faut se dire, bon, bah, peut-être que j'arrête. Mais je crois que de base, il faut être plutôt motivé par l'évangile et se dire, nous, on a reçu une grâce extraordinaire, on crache dessus, en fait, tous les jours, en guillemets, en continuant à pécher, en s'éloignant de Dieu, ayons un peu cette même grâce généreuse envers les gens. Je ne sais pas s'il y a d'autres...
De vivre généreusement parce qu'on est vraiment baigné dans un environnement où c'est normal de dépenser de l'argent, c'est normal de s'acheter des nouveaux trucs, etc. Ouais. Et je voulais savoir si tu avais un petit peu des conseils, genre des petits actes pratiques pour commencer justement. Si on se dit là, bah voilà, j'ai envie d'être plus généreux, est-ce que tu as des conseils par où commencer?
Je le disais un peu en plaisantant, mais c'est pas tellement en plaisantant finalement. Je pense que au niveau de certains d'entre vous, les dépenses que vous allez avoir, ça peut être des choses. Je parlais de l'abonnement Netflix. C'est pas seulement pour rigoler, c'est pour dire. Je pense qu'il y a des choses où on s'est habitué à certaines choses et il me semble que c'est normal qu'on doit avoir ça. C'est un peu ce que je disais hier. C'est un peu un luxe qui est devenu une nécessité. Et je pense que vous pouvez prendre déjà le temps, ça peut être la première chose que vous faites, vous dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Il ne s'agit pas de dire qu'il faut, comme je disais hier, c'est pas on arrête de s'acheter quoi que ce soit, on devient des ermites, c'est pas ça l'idée, mais prenez quand même le temps de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont devenues tellement importantes, qui en fait ne sont pas tant que ça, et que si vous ne les aviez plus, au bout d'un moment, vous vous habitueriez aussi. Et peut-être que vous pouvez déjà commencer là par vous dire, ok, est-ce que je peux chaque mois dégager peut-être 15 euros? C'est peut-être juste les 15 euros de mon abonnement Netflix, c'est peut-être juste ça. Et puis ensuite, je pense que si on se demande vraiment quels sont les besoins autour de nous, on va commencer par les voir. Je vous donnais juste quelques exemples pratiques de comment être généreux avec la vie, avec ma vie en général, pas seulement avec mon argent. Et faites vraiment l'exercice. C'est-à-dire, prenez le temps le dimanche ou les gens qui sont autour de vous à l'église de vous dire qu'est-ce qui pourrait être le besoin de cette personne, de cette personne, de cette personne. Et je pense qu'en général, ce ne sera pas de l'argent. Mais sincèrement, je pense que ça peut être juste aller saluer cette personne à la fin du culte. Ça peut juste être ça. Il y a des gens dans votre église que personne ne va saluer, c'est sûr. Allez le faire. Ça, c'est être généreux. Enfin, il y a des trucs qui sont très simples comme ça. Il y a des, voilà, l'exemple de la mère de famille qui est seule avec ses enfants. Pensez à elle. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et à mon avis, si vous avez vraiment cette attitude de vous dire « Ah, combien Dieu m'a donné, j'ai envie aussi de faire quelque chose en retour », Dieu va vous mettre des... si vous lui demandez, il va vous mettre des choses sous les yeux, je suis sûr. Je sais pas si ça aide un peu à répondre. Mais... Voilà. Et en fait, c'est un truc... Je pense surtout que c'est un truc qui doit se faire ensemble. Donc peut-être c'est aussi une discussion à avoir par la suite dans le cadre du groupe de jeunes. C'est-à-dire, peut-être même en tant que groupe de jeunes, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour avoir un impact un peu plus grand? Ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y a encore une chose, une question, une remarque.
J'ai une question.
Ouais.
Évoqué un peu hier dans une discussion à propos de ceux qui sont venus à l'étranger.
Ouais.
Dans nos pays, parfois, il y a beaucoup de corruption, d'injustice, et en fait, on est impuissant. Et en fait, quelle attitude adopter? Est-ce qu'on doit s'en foutre? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait?
Tu parles genre de la corruption qu'il y a dans leur pays, c'est ça, dans ce sens-là?
Oui, dans nos pays.
Ou dans nos pays?
Enfin, moi, je m'engage.
Ah pardon, ok. Ouais. Dans les pays d'origine, d'accord.
Il y a eu crise.
D'accord, ok, je comprends.
On va pas faire une révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être généreux et pratiquer la justice dans un environnement qui n'est pas forcément...
Je veux dire, dans le genre de pays, il y aurait de la corruption peut-être plus qu'en France.
Oui, c'est ça.
Ok, d'accord. C'est une grande question. Je pense qu'au niveau individuel, il n'y a pas forcément grand chose qui peut être fait au niveau de l'injustice. Il y a quelque chose, vous parlez de Timothy Keller juste avant, et il a un livre qui est vraiment intéressant où il parle de ça. Et il dit, en fait, il y a un peu trois niveaux d'aide qu'on peut apporter. Il y a un niveau d'aide qui est vraiment, répondre aux besoins immédiats. Et il dit, là, il y a un côté où, individuellement, on a un rôle à jouer. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est plutôt le niveau de non seulement aider immédiatement, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut transformer la situation pour que les personnes, par exemple, qu'on aide, trouvent un travail, puissent subvenir à leurs besoins, etc. Il dit, ça, c'est presque plus au niveau d'église, enfin, au niveau de la collectivité de l'église qu'on peut avoir un impact. Et après, il parle du troisième niveau d'aide, qui est vraiment le niveau des pays, des problèmes systémiques, etc. Et là, il dit que c'est vraiment plus un engagement qu'on doit avoir au niveau de la société, de la politique, etc. Mais individuellement, c'est compliqué. Je veux dire, tu ne vas pas renverser le système judiciaire d'un pays, quoi. Mais je pense, non, mais plus sérieusement, je pense que vraiment une des choses qu'on peut faire, et en fait, je voulais le dire hier soir, je ne l'ai pas dit, en fait, c'est prier. Parce que je pense que moi j'ai été vraiment repris à part ça en y pensant dernièrement, c'est que je prie jamais, ou presque jamais, pour que Christ revienne, ou en fait je pense que ça me va tellement bien dans ce monde, je suis tellement bien, je suis tellement confortable, que ça m'est égal que ça n'aille pas dans d'autres pays, et qu'il y ait des personnes qui souffrent vraiment, et des chrétiens persécutés, ou des chrétiens qui sont en train de souffrir de faim et tout. Et je pense que vraiment notre première responsabilité par rapport à ça, c'est encore la prière. Et de demander à Dieu d'agir dans ces pays, en particulier notre pays, si on vient d'un pays comme ça. Voilà. On s'arrête là. Merci à vous pour l'attention aussi.
Merci Joël. Je vais inviter le groupe de musique. Ouais, on peut l'applaudir.